Place Info. 20h, 21h, France Info, les informés. Jean-François Aquili.
Bonsoir Nicolas Sarkozy, renvoyé en correctionnel pour Big Malion, l'ancien président plébiscité toutefois dans notre enquête Odoxa Dentsu Consulting France Info Le Figaro sur les droites en France. Édouard Balladur, François Léotard, rattrapés eux par l'affaire Karachi et les interrogations sur la pollution à Rouen après l'incendie de l'usine Lubrizol. C'est dans les informés avec Sophie de Ravinel, grand reporter politique au Figaro, avec Maya Daboulos, directrice générale adjointe de Havas Paris, avec Saveria Rojek, journaliste politique, avec Yasmina Jaffar, journaliste fondatrice de laruchemedia.com. Bonsoir mesdames et bienvenue, nous sommes ensemble jusqu'à 21h à la radio, à la TV, sur le canal 27 de la TNT. Cette double annonce surprenante survient au lendemain même de la journée de l'hommage à Jacques Chirac. Le renvoi d'Édouard Balladur et de François Léotard devant la Cour de justice de la République, rattrapé par le volet financier de l'affaire Karachi, et celui de Nicolas Sarkozy en correctionnel dans l'affaire Big Malion. L'ancien président n'est pas concerné par les faits, affirme son avocat maître Emmanuel Pivnica, invité de France Info.
Maintenant, on parle de l'affaire Big Malion. C'est pas une ligne de défense ou quoi que ce soit, c'est l'instruction elle-même qui l'a démontré. Donc, tout ce qu'on peut lui reprocher aujourd'hui, c'est déjà ce qu'on lui reprochait hier, c'est-à-dire ce dépassement de 360 000 euros. L'affaire Big Malion, qu'on appelle Big Malion, ce qui s'est passé dans cette affaire, même la juridiction d'instruction a reconnu qu'il n'était pas au courant, il n'y a pas participé, il ne l'a pas ordonné, il ne connaissait pas cette affaire. C'est une affaire distincte.
Sophie de Ravinel, l'affaire distincte, c'est une évocation de l'autre épisode précédent. Vous vous rappelez, c'était le Sarkoton. Hein. Oui, il y a eu ce dépassement de plus de 300 000 euros.
400 000 euros, voilà. C'était la Commission nationale des comptes de campagne.
Absolument, hein, qui avait une collecte de fonds auprès des militants. Voilà. Et Nicolas Sarkozy avait remboursé. Et puis l'affaire, pour lui, était classée, mais elle ne l'est pas.
Elle ne l'est pas du tout et on a su par la suite tous tout le méandre des fausses factures qui ont pu être mises à jour pour un montant qui allait doubler celui des dépenses réelles de la campagne. Et ce qui est effectivement compliqué, c'est à la fois le fait que la Commission nationale des comptes de campagne ait pu valider ses comptes. Ça, on pourra revenir sur éventuellement les nécessités de changement un peu de ces comptes de campagne, de cette commission des comptes de campagne, en particulier en vue des élections à venir. Et surtout, le fait que ce soit assez compliqué aujourd'hui pour Nicolas Sarkozy, parce que il n'est pas seul, hein, il est au milieu de 13 autres personnes, et on ne sait pas si la justice parviendra ou non à isoler qui serait effectivement responsable de ces fausses factures qui ont grévé durablement, on en parlera peut-être aussi, le budget de l'UMP plombé, et qui ont eu des conséquences énormes sur la droite aujourd'hui en France.
Sa dernière rejette des séquences extrêmement difficiles pour l'ancien président.
Absolument. C'est la ligne de défense qu'emploie depuis tout à l'heure l'avocat de Nicolas Sarkozy en disant l'ancien président n'était même pas au courant. Mais quand on lit l'ordonnance de renvoi, ce qu'écrit le juge au terme d'une très longue enquête, il écrit que Nicolas Sarkozy a incontestablement, c'est le terme employé, bénéficié de ce système de fausses factures qui a été mis en place. On ne parle pas de 300 000 euros, c'est effectivement une autre affaire. Pour cette affaire-là, on parle d'un dépassement d'un montant de 20 millions d'euros. Voilà. Moi, ce que j'ai envie de dire d'abord, c'est que je trouve que ça commence à faire beaucoup. Il n'y a aucun autre président de la République qui a autant d'affaires judiciaires sur le dos. Il y a effectivement, aujourd'hui, on a appris donc qu'il y aura un procès dans cette affaire Big Malion. On savait déjà qu'il y aurait l'année prochaine également un procès dans l'affaire dite Bismuth. Alors là, en plus, les chefs d'accusation...
Paul Bismuth.
Alors, sans rentrer dans les détails de l'affaire, juste en parlant des chefs d'accusation, ils sont encore plus graves que l'affaire Big Malion dont on parle aujourd'hui. Là, l'ancien président de la République est poursuivi pour corruption. C'est le premier ancien président de la République qui sera poursuivi pour corruption. Bref, toutes ces affaires, elles obèrent en tout cas grandement l'avenir politique de Nicolas Sarkozy, si tant est qu'il n'en ait un ou qu'il veuille en avoir un. Mais en tout cas, force est de constater que ça entache l'image que les Français peuvent avoir du personnel politique.
Yasmina Jaffar, on a évoqué pendant 5 jours Jacques Chirac, ce premier président de la Ve République condamné à la sortie pour des affaires. Et là, nous sommes dans une forme d'addition des choses.
Oui, c'est le deuxième président de la Ve République à être...
Pas condamné, il est inquiété.
Oui, voilà. Inquiété, bien sûr. Mais en tout cas, il y a un renvoi en correctionnel. Mais c'est en effet cette deuxième affaire qui sera qu'on évoquera cette année en 2020. Je pense que ça l'embête un peu plus. C'est un peu plus dangereux pour lui et il y a un peu plus de fébrilité sur cette affaire autour des écoutes. Là, par rapport à cette affaire-là autour des 20 millions, c'est vrai que c'est assez exceptionnel de voir des meetings. Il y en a eu 44 en l'espace de 3 mois, pendant que son concurrent François Hollande en avait que 10. Donc il y a un dépassement total d'attitude et il y avait quelque chose d'assez royal à ne pas refuser quoi que ce soit, et c'est toute son équipe qui n'a pas su dire non à quelqu'un qui voulait des meetings absolument faramineux. Et qui ressemblait aussi au meeting à cette époque-là de Obama, qui avait complètement des choses complètement irrévérencieuses. C'était extraordinairement riche et cher. Et je pense que là, il y a une erreur quand l'avocat dit qu'il n'est pas au courant ou qu'il n'y est pour rien, parce que de toute évidence,
c'est une ligne de
défense.
Des
grandeurs à ce moment-là, bien sûr, mais on peut pas y croire.
Maya Daboulos, désormais la carrière, si je puis dire, l'après présidentiel de Nicolas Sarkozy, il vit sous la menace permanente de condamnation, d'autres tracas éventuels judiciaires.
Tout à fait. Je vais vous répondre sur ce point, mais je pense que ce qui est intéressant de regarder aussi, c'est un peu l'histoire dans l'histoire, parce que au fond, depuis le début dans cette affaire, il y a aussi un affrontement entre deux hommes, hein, le juge Tournaire et Nicolas Sarkozy. Il y a eu la saga Tapie Crédit Lyonnais, évidemment il y a l'affaire Bigmalion, et c'est un peu sa première victoire au juge Tournaire. Et d'ailleurs, quand on regarde bien, on sait que l'autre juge d'instruction, hein, Van Ruybeck, a refusé de signer l'ordonnance de renvoi. Donc ça personnalise encore plus le combat entre les deux hommes. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est quel effet ça va avoir sur l'opinion. Parce que là, il ne peut plus y échapper. Il est renvoyé en correctionnel. Donc on va avoir des images, en fait, de Nicolas Sarkozy, d'un ancien président de la République, sur le banc des accusés.
On est dans l'annonce des choses, mais il y aura ensuite une matérialisation de Nicolas Sarkozy devant la justice.
Exactement. Ouais. Est-ce que ça va avoir un impact sur lui? Est-ce que ça va avoir un impact sur sa famille politique? Ça sera intéressant de voir à ce moment-là, quand les images seront devant les yeux des Français. Personnellement, je pense que ça n'aura pas beaucoup d'effet pour plein de raisons sur lesquelles on pourrait revenir, parce qu'il est notamment considéré aujourd'hui un peu comme en dehors du champ purement politicien.
Ouais. Et en tout effectivement, cas, ça le tient à l'écart.
Effectivement. Oui. Et puis vous parliez de Chirac, bien sûr. En vrai, on a beaucoup célébré Chirac ces derniers jours. Qui se souvient qu'il a été condamné à 2 ans de prison avec sursis en 2011?
Oui, ça a été évoqué et finalement, ça a eu peu d'impact sur l'opinion. Allez, marquons une pause. 20h10 sur France Info. Rappel de l'info avec vous, Jules Dequis.
L'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen a bien entraîné une diffusion de fibres d'amiante dans l'air. Il y en avait dans le panache de fumée jeudi dernier, mais dans des quantités insuffisantes pour être dangereuses. C'est la conclusion de premières analyses rendues publiques ce soir. La préfecture de Seine-Maritime doit publier sur son site internet la liste des produits stockés sur le site quand il a pris feu. Édouard Balladur et François Léotard seront jugés devant la Cour de justice de la République pour l'affaire Karachi. L'avocat de l'ex-premier ministre affirme sur France Info n'être pas surpris de cette décision et se dit confiant sur l'issue de ce procès. Tout comme son ancien ministre de la Défense, il est soupçonné d'être impliqué dans un système de rétrocommission sur des contrats d'armement avec le Pakistan et l'Arabie Saoudite. Il a servi, d'après les enquêteurs, à financer la campagne électorale de 1995. 6 sympathisants de droite sur 10 sont favorables à une union des droits à ce que le Rassemblement National et le Parti Les Républicains se rapprochent lors des élections. C'est le résultat de notre sondage Odoxa Dentsu Consulting pour France Info et Le Figaro. Marion Maréchal-Le Pen serait préférée à Marine Le Pen pour la mener. C'est elle qui a organisé ce week-end la convention de la droite, tout en assurant ne pas être candidate pour la présidentielle de 2022. Nabil Karoui est maintenu en détention. La situation est donc improbable en Tunisie. Le patron de presse, soupçonné de fraude fiscale, est arrivé deuxième du premier tour de l'élection présidentielle. Le second est prévu pour dans 2 semaines. Et puis dans moins d'une heure maintenant, le Paris Saint-Germain affronte Galatasaray à Istanbul en Turquie. C'est le deuxième match de la phase de poule de Ligue des Champions. Dans cette même poule, le Real Madrid est en ce moment mené 2-0 par les Belges de Bruges.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Bigmalion, la suite. Nicolas Sarkozy renvoyé donc en correctionnel. Pas surpris, Jérôme Lavrieux, l'ancien directeur adjoint de campagne de cette campagne Sarkozy 2012, joint sur France Info.
Je ne suis pas surpris par la décision de la Cour de cassation, c'était écrit. Ça fait 3 ans qu'un certain nombre de prévenus font des pourvois les uns après les autres, les perdent les uns après les autres durant un procès. Il n'y a aucune raison dans notre pays d'avoir peur d'un procès. Le procès est pour faire ressortir la vérité judiciaire. Moi, ça fait 3 ans que j'attends. Je suis très content de cette décision de la Cour de cassation.
Sophie Dravinel, ils vont se retrouver ensemble.
Oui, Je ne sais pas. J'avoue que là-dessus, je ne sais pas quels seraient les. Ou avec peut-être M. Balkany, je ne sais pas. Mais non, pour l'instant.
Je parlais du procès. Hein.
Oui, non.
Je voulais rebondir ce que vous disiez tout à l'heure sur la personnalisation. Pardon, sur la personnalisation du juge. J'ai parlé à quelques personnes de l'entourage de Nicolas Sarkozy cet après-midi qui disaient que justement, lui veut montrer un visage positif, un visage, il se veut confiant, et il ne veut pas rentrer dans un face-à-face avec les justices, juste pour ajouter ça.
Alors justement, poursuivons sur ce que disait tout à l'heure Maya Daboulos, avec vous Sophie Dravinel, je voulais y venir. On évoquait avec Jules Dequis à l'instant le sondage Odoxa Dentsu Consulting France Info Le Figaro réalisé. Il faut le préciser, auprès d'un millier de personnes, c'était les 25 et 26 septembre, donc avant l'annonce du décès de Jacques Chirac. Il y a un classement qui est assez étonnant parmi les personnalités politiques. Dites-nous si elle incarne très bien, plutôt mal la droite, etc. Eh bien, pour les Français, du moins l'ensemble des Français, mais aussi pour les Français qui se disent de droite, largement en tête, c'est Nicolas Sarkozy. Donc, avec une perception quand même qu'il est déjà empêché par les affaires. Donc, il reste le plus populaire à droite.
Il reste le plus populaire et il y a quelque chose de ce que nous évoquions avant la pause, qui est cette distance que les Français peuvent avoir d'un président, d'un ex-président qui a pris du champ par rapport à la politique active. Et on a vu ce même phénomène vis-à-vis de Jacques Chirac. Nous avons des sondages qui montrent à quel point les Français le perçoivent comme sympathique, le perçoivent comme chaleureux, le perçoivent comme ayant été un excellent président ayant mené une politique extrêmement solide, etc. Ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. Donc l'image est distordue. Pour Nicolas Sarkozy, il incarne, je suppose, dans l'opinion publique, c'est cet homme de 2007 de changement, de vigueur de la droite, tel que les militants et les sympathisants de la droite la voudraient aujourd'hui. Et je pense qu'il y a là une forme de nostalgie de cette droite qui, comme on le disait tout à l'heure, s'est affaiblie pour des questions financières, pour des questions judiciaires, pour des questions d'hommes, etc. Mais cet affaiblissement suscite un regain de nostalgie pour ce qu'incarne Nicolas Sarkozy.
Alors sommes-nous, Yasmina Jaffar, toutefois, face à une forme d'amorce, de franchissement des digues qui n'avaient jamais cédé sous Jacques Chirac, puisque le sondage, l'enquête nous dit que pour les Français, il y a une sorte de classement. Nicolas Sarkozy, 60%, Xavier Bertrand est à 48%, Édouard Philippe, 45%, Marion Maréchal est à 44%, mais pour les Français qui se disent de droite, eh bien, on a un tiercé, Nicolas Sarkozy, Marion Maréchal et Marine Le Pen, de façon assez serrée pour les deux poursuivantes, si je puis dire, de l'ancien président. Sommes-nous en train d'assister à quelque chose de l'ordre du franchissement à droite, de peut-être un début de digue qui cède, puisque Jules Dequis évoquait exactement ce résultat. L'union des droites souhaitée par 61% des Français, se réclamant de droite, dont, chose nouvelle, 57% des sympathisants à l'air.
Peut-être que Marion Maréchal Le Pen, en effet, au sortir des européennes, n'a pas eu la plus mauvaise idée de l'année quand elle a voulu faire cette union des droites. Elle a été raillée et on s'est dit que c'était pas vraiment possible parce que ça représentait pas forcément grand chose en termes d'électeurs. Mais en ce qui concerne Nicolas Sarkozy, la différence avec Marine Le Pen et Marion Maréchal Le Pen, c'est que c'est une star. Il a des fans absolus, des gens qui sont militants, qui l'aiment beaucoup. Il vend 250 000 exemplaires de son livre Passion. Il a hier tourné ou avant-hier tourné la prochaine émission de Michel Drucker qui sera diffusée dimanche prochain. Et je pense qu'il y aura une très belle audience. C'est quelqu'un qui encore considéré comme le dernier grand leader à droite au moment où la droite s'éteint et où ça ne va pas très bien. Ouais. Où Valérie Pécresse n'arrive pas à faire entendre sa voix et où Marion Maréchal Le Pen fait une convention, on en parlera tout à l'heure, avec beaucoup de choses à redire. Mais Nicolas Sarkozy reste quand même la star à droite, avec vraiment un socle très important de fans. C'est une star.
Un socle très solide. Ça varie.
Il fait des dédicaces.
Oui, vous qui avez suivi la vie parlementaire pendant de longues années, vous aviez devant vous le spectacle d'un partage traditionnel, classique de la vie politique. Là, soudain, l'opinion publique, les Français disent tout à fait autre chose.
Mais on sent surtout qu'il y a un peuple de droite qui se sent abandonné et qui ne se raccroche qui n'a plus que cette figure-là, la figure de l'ancien président, à laquelle se raccrocher, qui est effectivement cette figure de la droite. C'est la dernière fois où la droite a été victorieuse, alors qu'aujourd'hui les Républicains sont en lambeaux. Par ailleurs, il faut le souligner, on l'a dit, on n'est jamais aussi populaire en France que quand on quitte le pouvoir. On l'a vu ces derniers jours, bien sûr, avec l'émotion suscitée par la disparition de Jacques Chirac. On le voit, vous parlez du livre de Nicolas Sarkozy, aussi le succès du livre de François Hollande. Hollande, qui a été un très grand succès. Et puis, il faut noter aussi que les Français, en général, ne tiennent pas grande rigueur des affaires judiciaires. Et là, je pense à Alain Juppé.
Je vous vois hocher la tête, Maya Daboulos. Permettez-moi d'abord de diffuser ce qu'a dit Christian Jacob, qui se trouve être quand même le patron des Républicains à l'Assemblée nationale et surtout le candidat à la succession à la tête de LR. Voici ce qu'il a dit de ce renvoi en correctionnel. C'était au micro de France Info.
Moi, je suis tout à fait confiant parce que je fais totalement confiance à Nicolas Sarkozy. Et encore une fois, on n'a pas à commenter cette décision de justice, mais elle peut surprendre. Et je veux vraiment lui réaffirmer tout mon soutien, le soutien de tous nos parlementaires dans ce moment qui est toujours une épreuve. Je pense que rien ne le justifiait, mais après, la décision de justice est la décision de justice. Elle s'impose, donc on ne va pas la commenter ni la discuter.
Voilà donc illustration de ce qui se dit, cette forme de gêne, au fond, chez les Républicains. Maya Daboulos, vous n'étiez peut-être pas forcément d'accord avec ce qu'a exprimé Saraya Rojek sur ces digues qui semblent peut-être commencer à bouger, si je puis dire.
Effectivement, non. Le point en fait qui m'interpellait, c'était sur le fait que le peuple de droite se sentait abandonné. Alors effectivement, si on revient sur Nicolas Sarkozy, il y a le fait qu'on a toujours une certaine indulgence envers les figures qui sont sorties de l'arène. Et vous citiez, Sophie, l'exemple de Jacques Chirac, qui n'a pas été le père de la nation, mais qui a été le grand-père de la nation. Deuxièmement, absence totale à droite, vide sidéral de personnalité.
À part peut-être Gérard Larcher, dont la figure commence un peu à émerger. Et là, je pense que c'est
tout
la...
doucement, alors.
Oui, si, quand même.
Tout doucement. Oui. Son bouquin, effectivement, c'est très bien vendu. Néanmoins, il faut faire attention avec ces chiffres. Les Français l'aiment, Nicolas Sarkozy, en ancien président. Et pas en personnalité d'avenir. Quand on regarde le sondage qui est paru dans le JDD dimanche dernier, 76% des Français ne souhaitent pas qu'il revienne, quand même.
D'ailleurs, il a connu deux...
Il a été éliminé deux fois.
Et deuxièmement, la difficulté qu'il a eue, et d'ailleurs c'est ce qui a expliqué aussi le résultat des primaires, c'est que en fait son socle électoral est plutôt dans la classe populaire. C'est ceux qui achètent le livre, c'est ceux qui vont sans doute faire une audience très importante sur France 2, etc. Mm-hmm. Donc c'est pas exactement l'électorat de la primaire. Et pour rebondir sur la question de le peuple de droite se sent abandonné, en fait il faut quand même pas oublier qu'une partie importante de la droite républicaine est partie chez Emmanuel Macron.
Absolument.
Vous faites bien de le rappeler. Mm-hmm. Toujours effectivement cette nostalgie ou cette sympathie à l'égard des personnalités politiques qui, à partir du moment où elles ont quitté les affaires. Allez, 20h20 sur France Info. Rappel de l'info avec vous, Jules De Kiss.
Plus de 40 plaintes ont été déposées après l'incendie de l'usine Lubrizol, annonce le parquet de Rouen, qui se dessaisit de l'enquête. Elle est désormais confiée au pôle santé du parquet de Paris. Des plaintes et beaucoup de défiance sur les annonces des autorités. 5000 personnes se sont réunies ce soir devant le palais de justice de Rouen. La préfecture annonce dans ce même temps que le panache de fumée contenait bien des fibres d'amiante, mais sans dangerosité vu la faible quantité de matière toxique dans l'air. Nicolas Sarkozy sera jugé devant un tribunal correctionnel dans l'affaire Bigmalion. La Cour de cassation rejette son dernier recours possible. Ce sera donc un procès pour financement illégal de campagne. L'ancien président de la République est soupçonné d'avoir bénéficié d'un système de fausses factures lui permettant de dépasser le plafond des dépenses de campagne autorisées. Pernod Ricard compte supprimer 190 postes en France. L'industriel des spiritueux va se restructurer, ce qui entraînera des coupes, notamment dans les fonctions commerciales et marketing. Deux manifestants dans un état grave et 31 blessés à Hong Kong après une nouvelle journée de manifestation. Pour la première fois en 5 mois de mouvement, la police a tiré à balles réelles sur les protestataires. Ils dénoncent l'influence de Pékin sur le territoire autonome. Et puis, grosse surprise, en ce moment, en Ligue des champions de football, le Real Madrid est mené 2-1 par les Belges de Bruges à domicile. Il reste moins d'une demi-heure à jouer. Dans cette même poule, le Paris Saint-Germain affronte les Turcs de Galatasaray. Coup d'envoi à 21h en Turquie.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Et puis il y a l'autre affaire, elle-même également, disais-je, au lendemain de l'hommage national à Jacques Chirac. Édouard Balladur et son ancien ministre de la Défense, François Léotard, renvoyés devant la Cour de justice de la République dans le volet financier de l'affaire Karachi, soupçonnés d'être impliqués dans un possible système de rétrocommission illégale. Plusieurs autres protagonistes d'ailleurs passeront en justice la semaine prochaine. Fallait-il en arriver là et si longtemps après, puisque ça remonte l'effet à l'origine... En 1993, j'ai posé la question tout à l'heure à Hervé Morin, le président des régions de France, qui était l'invité du 18-50 France Info.
C'est pas la vieille histoire. Il est évident que dès lors qu'il s'agit de présomption de corruption, de financement illégal de campagne électorale, il est logique qu'on aille jusqu'au bout de la procédure. Mais l'essentiel aujourd'hui, c'est pour nous, droite et centre-droit, la reconstruction d'un projet politique avec, le moment venu, un leader qui soit en capacité de l'incarner.
Sophie Dravinel, sans revenir sur l'affaire Karachi, qui est fort complexe, on n'aurait pas assez d'une heure pour l'évoquer, en venir à bout, apurer le passif et reconstruire, c'est ce que semble expliquer Hervé Morin.
Oui, il a raison. Je pense que déjà, pour Karachi, il est important aussi pour les familles des victimes de se reconstruire et de savoir ce qui s'est passé et de savoir s'il y a eu ou non financement et de connaître les circonstances du décès de leurs proches. Ça, c'est un premier point. Ensuite, il est effectivement, et on peut le comprendre de leur part, question de la reconstruction de la droite. Mais je pense qu'apurer la justice, c'est aussi permettre à tout le monde de se relever.
Yasmina Jaffar, sur cet aspect des choses, finalement, en finir pour tourner la page des affaires.
Oui, parce qu'on se rend compte que là, entre que ce soit Monsieur Guéant, Monsieur Balkany, etc., il y a une volonté maintenant de transparence et d'une volonté de justice qui a envie de rendre justice. Et on sent bien qu'il y a une défiance totale, et on le voit par rapport à Rouen, on en parlera tout à l'heure, du peuple pour la politique. Et on a besoin aujourd'hui d'être totalement au clair avec ce qui se passe dans les affaires. En effet, Jacques Chirac, on ne lui en tient pas rigueur. Il attirait beaucoup de sympathie. Nicolas Sarkozy, on verra. Attire-t-il la même sympathie que M. Chirac? Je ne suis pas sûre. Donc peut-être que si jamais il est condamné, on lui en tiendra rigueur. Et que s'il tente de revenir, on lui dira, écoutez monsieur, ça n'est pas possible. Donc il y a vraiment une volonté maintenant, et je pense qu'Edouard Balladur est dans cette même histoire, c'est qu'à un moment donné, il faut absolument tourner la page de l'histoire, l'injustice, ancienne, tout simplement, et de faire ancienne, les choses.
Ne serait-ce que pour les familles. Maya Daboulos, tout à l'heure, on parlait de, au fond, cette droite partie chez les marcheurs. Hein. Dans le sondage, les Français de droite, 24% sont plus nombreux que ceux de gauche, 17% quand même, ou du centre, 13%, comme M. Morin. Ils ne sont pas tous chez LR ou RN, ils sont aussi à La République En Marche, c'est ce que vous disiez. Mais aujourd'hui, près de la moitié de nos concitoyens, 45%, eh bien, ne se positionnent plus sur cet axe. C'est vrai que cet ancien monde, on a parlé beaucoup de Jacques Chirac, de l'héritage politique, du capital sympathie, certes, de l'ancien président, mais de ce qu'était le monde politique d'avant, il y avait au fond un axe gauche-droite, tout ça volé en éclats. C'est ce que raconte finalement ce sondage et ces affaires qui reviennent sur le tapis.
Mais ce sondage raconte surtout, en fait, un succès d'Emmanuel Macron.
Un succès ou une capitalisation? Parce que d'autres l'ont dit avant lui, quand même.
Il a quand même réussi aujourd'hui à faire en sorte que la moitié de la population ne se positionne plus de manière classique sur l'axe gauche-droite. Et c'était exactement ce qu'il nous avait vendu pendant la campagne.
Vous êtes d'accord avec ça?
Une capitalisation, capitalisation, j'allais dire. Effectivement, c'est-à-dire que c'était le kairos pour lui, c'était le moment opportun. C'était la bonne personne au bon moment. Après, effectivement, on ne sait pas très bien ce que ça va devenir. On ne sait pas très bien si cette évolution de l'échiquier politique va durer dans le temps, ou si on reviendra à une sorte d'ancien monde, les oppositions vont forcément se reconstruire. À gauche, c'est pas encore clair entre l'écologie et la social-démocratie classique. À droite, pour l'instant, le personnel est encore très faible. Mais je ne suis pas certaine non plus que la configuration telle qu'elle est imposée par Emmanuel Macron, qui est quand même très seul, soit pérenne.
Ce qui est certain, c'est que Emmanuel Macron veut capitaliser effectivement sur cette bipolarisation de la vie politique, et notamment la disparition du clivage droite-gauche, en étant seul dans un face-à-face avec Marine Le Pen. C'est ce qu'il fait dans le ce débat sur l'immigration.
Sur une victoire.
Terminer juste un mot sur le chapitre des affaires, ce que je voulais dire aussi, c'est que 2020 va être particulièrement une année particulièrement chargée pour la droite au niveau judiciaire, parce qu'il y aura quand même les deux procès Nicolas Sarkozy, il y aura le procès François Fillon, et il y aura effectivement Édouard Balladur et François Léotard poursuivis dans la Cour de justice de la République. Donc c'est
une année
lourde en affaires judiciaires pour la droite.
Oui, Sophie Dravinel, vous
dites. Municipal au milieu,
Les sénatoriales.
Bien sûr, à la rentrée.
Absolument. Vous avez d'autant plus raison. Avez d'autant plus raison que, au fond, la question qu'on peut se poser, c'est qui est gagnant en fait dans l'histoire. La réponse est clairement personne. Pour revenir un instant sur l'affaire Karachi que vous citiez tout à l'heure, renvoyé aussi longtemps après les faits, on est quasiment 30 ans hein, après les premiers faits. Renvoyer aussi longtemps après les faits des personnes aussi âgées devant une instance qui est aussi unanimement remise en question. Hein. Je rappelle quand même que c'était dans le programme de François Hollande et dans celui d'Emmanuel Macron. Ça ne sert personne.
Allez, nous marquons une pause dans les informés de France Info. Nous allons faire un détour par Rouen dans un instant après le rappel de la météo et après les infos. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite des informés.
Si vous restiez toujours connecté à votre business avec Orange.
Moi, chez Orange, avec l'offre Connect Pro Fibre, je travaille plus vite.
Et moi, je fais des vidéoconférences avec mon équipe.
Et moi, j'ai fait enregistrer mon message d'accueil téléphonique par un studio pro.
Alors là, je reste sans voix.
Chez Orange, avec Connect Pro, profitez de la fibre jusqu'à 20 lignes fixes, 4 forfaits mobiles et des solutions pour rester toujours joignable. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Offre soumise à conditions, disponible en France métropolitaine, réservée aux professionnels. Conditions et détails sur orangepro.fr ou au 3901. Service gratuit, appel au prix d'une communication normale selon offre détenue.
Politique, culture, économie, sport, international. Pour l'info 24h sur 24, France Info. Et tout est plus clair. France Info Météo, avec Gauthier, fabricant français de meubles de rangement sur mesure pour toutes les pièces de la maison, à retrouver en magasin et sur gauthier.fr.
La météo, les prévisions avec vous, Élodie Calac pour Météo France.
Un temps plus calme demain. En attendant, ce soir et cette nuit, les plus orageuses se décalent vers les Alpes, la Côte d'Azur et la Corse. Elles vont s'attarder sur le nord des Alpes. Demain, le réveil sera souvent encombré avec quelques averses plus nombreuses près des Pyrénées et du nord des Alpes au Jura. Quelques flocons aussi au-dessus de 2300 mètres. Le soleil sera de retour sur le sud-est avec un vent de nord qui se mettra en place. Il fera encore assez doux le matin, 10 à 18 degrés. L'après-midi, toujours quelques averses des Pyrénées au nord-est et à Rhône-Alpes. En Méditerranée, du soleil et du vent. Peut-être une petite averse pour la Côte d'Azur, pour la Corse. Et puis de l'océan vers le bassin parisien, les frontières belges et luxembourgeoises. Ça s'arrangera. Retour d'éclaircies. Très belle près de la Manche. Il fera frais. 13 degrés au Havre, 14 à Lille, 16 à Paris, 18 à Angers, Mulhouse, Lyon, 21 degrés à Agen et 25 à Toulon.
Et 30 minutes sur France Info, toute l'info. Bonsoir à vous, Olivia Ferrandi.
Bonsoir Jean-François, bonsoir à tous. 5 jours après l'incendie à l'usine Lubrizol de Rouen, la liste des produits qui ont brûlé dans ce site classé Céveso vient d'être publiée sur le site internet de la préfecture de Seine-Maritime. Plus de 5000 tonnes de solvants, de détergents et d'additifs ont été détruits et les scientifiques sont maintenant chargés d'étudier la dangerosité des résidus et des suies. Cette liste, la CGT souhaite également la transmettre à d'autres experts, comme l'indique l'un des responsables du syndicat en Seine-Maritime, Gérald Lecor.
On transmettra la liste des produits aux universitaires, aux chercheurs, et la plupart des chercheurs qu'on travaille sont des retraités, comme ça on sait qu'ils ne sont plus financés par l'État et le patronat. On leur soumettra et on exigera de l'État plus que la liste. On exigera de l'État qu'il nous donne la liste de ses experts. On exigera des mesures précises, on établira un cahier des charges avec les scientifiques qui nous soutiennent et qui veulent la vérité.
5000 habitants ont manifesté ce soir à Rouen. Les pouvoirs publics ne parviennent pas pour l'heure à rassurer la population, d'autant que l'odeur reste nauséabonde dans certains quartiers. Un millier de fûts, dont 160 contenant du mercaptan et de l'hydrogène de sulfure, doivent encore être évacués du site. Nicolas Sarkozy devra s'expliquer devant la justice après avoir dépassé de 20 millions d'euros le plafond autorisé pour les dépenses de campagne en 2012. L'ancien chef de l'État est renvoyé devant le tribunal correctionnel pour financement illégal de campagne. De son côté, la Cour de justice de la République jugera Édouard Balladur et François Léotard. La justice soupçonne un financement occulte de la campagne d'Édouard Balladur pour la présidentielle de 1995, cette fois à travers un système de rétrocommission versé en marge de vente de sous-marins et de frégates au Pakistan et à l'Arabie Saoudite. La présence de plus de 10 millions de francs en liquide pose question. Édouard Balladur récuse ses accusations selon son avocat. La suppression de l'impôt sur la fortune n'a pas créé d'effet immédiat et positif sur l'économie française. Il faudra attendre plusieurs années avant de mesurer concrètement l'impact de cette réforme. C'est ce que révèle aujourd'hui un rapport publié un an après le remplacement de l'ISF par l'impôt sur la fortune immobilière. Le nombre de contribuables concernés a été divisé par 3 et les grosses fortunes semblent moins tentées désormais de s'installer en Belgique ou au Luxembourg. Elles étaient 630 en 2016, moins de 400 l'année suivante. À l'étranger, 6000 employés au chômage technique au Mexique, conséquence de la grève chez General Motors aux États-Unis, faute de pièces fabriquées sur le territoire américain. Les usines mexicaines automobiles tournent au ralenti. La grève dure depuis plus de 2 semaines maintenant pour obtenir une meilleure convention collective, avec entre autres une meilleure couverture santé. Nabil Karoui ne sortira pas de prison en Tunisie. Sa demande de remise en liberté a été rejetée aujourd'hui. Cet homme d'affaires est l'un des deux candidats du second tour de l'élection présidentielle, incarcéré fin août pour blanchiment et évasion fiscale. Il était parvenu à faire campagne par l'intermédiaire de sa femme et de la chaîne de télévision qu'il possède. Et puis, bienvenue en enfer, scandent les supporters stambouliotes sur les réseaux sociaux. Voilà les Parisiens prévenus. Dans une demi-heure, les footballeurs du PSG affrontent Galatasaray à Istanbul. C'est la Ligue des champions de football. 20h33, Jean-François Killy.
20h, 21h, France Info, les informés, Jean-François Killy.
La deuxième partie des informés avec Sophie de Ravinel, grand reporter politique au Figaro, Mayada Boulos, directrice générale adjointe de Havas Paris, avec Saveria Rojek, journaliste politique, et Yasmina Jaffar, journaliste fondatrice de laruchemedia.com. A-t-il rassuré les habitants de Rouen? Le préfet de Seine-Maritime, Pierre-Henri Durand, tenait en milieu d'après-midi une conférence de presse sur les conséquences, vous l'avez compris, de l'incendie de l'usine Lubrizol pour annoncer qu'aucune fibre d'amiante n'a été détectée dans l'air. Bonsoir à vous, Benjamin Ely.
Bonsoir.
Vous êtes notre envoyé spécial de France Info à Rouen. Benjamin, vous avez suivi la manifestation partie du palais de justice pour rejoindre la préfecture. Quel était le climat?
Alors, le climat était véhément, mais aucune violence au cours de cette manifestation. En revanche, j'ai des manifestants très déterminés. Une manifestation qui vient de se terminer. Il y a encore quelques policiers dans cette ruelle qui donne sur une entrée de la préfecture. Une délégation est reçue en ce moment. Éric Coquerel de la France Insoumise était là il y a encore quelques minutes. Et parmi les politiques, on a vu aussi Yannick Jadot d'Europe Écologie Les Verts ou Olivier Faure du Parti Socialiste. Un combat pour la vérité, c'était le mot d'ordre de cette manifestation. Un combat très politisé, vous l'avez compris, les opposants politiques relaient donc cette défiance des manifestants vis-à-vis du gouvernement, vis-à-vis de la parole des autorités. Ils étaient des centaines, des militants de la CGT, des militants écologistes, des gilets jaunes aussi, ou de simples citoyens, et beaucoup portaient un masque pour se protéger des odeurs d'hydrocarbures qui persistent ici dans les rues de Rouen. Et les paroles qui se voulaient rassurantes du préfet cet après-midi n'ont eu aucun effet visiblement.
Impact zéro, Benjamin. Impact zéro, donc. Vous nous confirmez ce soir.
En tout cas, sur ces centaines de manifestants qui étaient rassemblés devant la préfecture, le résultat de cette conférence de presse du préfet n'est pas sans doute l'objectif recherché par le préfet, c'est-à-dire que ces manifestants restent mobilisés. Et pour résumer l'état d'esprit de ces manifestants, je vais vous donner un slogan. Arrêtez de nous enfumer.
Ah oui, c'est le cas de le dire. Merci à vous, Benjamin Ely, pour ce récit au sortir de cette manifestation. Donc visiblement, Sophie de Ravinel, de la colère toujours à Rouen, et finalement pas d'opération vérité de réussie de la part des autorités.
C'est vrai que 6 jours après l'accident, c'est extrêmement compliqué. On a le sentiment là que les autorités de l'État s'enferrent et enchaînent les difficultés liées au fait que dès le début, il y a eu un vrai problème de communication. Et je discutais avec Yannick Jadot qui était présent ce soir à la manifestation à Rouen. Il est interviewé chez nous dans nos pages demain. Et il me disait, à force de réponses partielles, on se pose la question de l'impartialité de l'État. Et il est vrai que cette question est posée et va être posée très fortement.
Oui, Mayada Boulos, sur la... Allez, c'est ce dont on parle depuis le départ, cette communication. Vous la trouvez, vous la jugez erratique? Ou bien les choses ont été faites et finalement ça ne colle pas et ça ne répond pas sur le terrain à l'angoisse des gens.
Je dirais les deux. Oui, les choses ont été faites, mais oui, la communication a été erratique. Très rapidement sur le contexte, évidemment cette affaire arrive à un moment où on sait l'opinion des Français particulièrement sensible aux questions écologiques. Et deuxièmement, le fait qu'il y ait eu le décès de Jacques Chirac le même jour malheureusement, en fait a donné le sentiment aux Français que les médias cachaient des choses et n'en parlaient pas. On n'accusait pas seulement les pouvoirs publics, mais également les médias.
Ou une maintenant, priorité de sujet.
Absolument. Une fois qu'on a dit ça, effectivement, dans la communication, je pense qu'il y a eu 3 manques. Un manque d'empathie, un manque de cohérence et un manque de modernité on peut plus s'adresser aujourd'hui de la même manière aux Français à une époque où règne le complotisme et où règnent les réseaux sociaux.
Oui, ça va, Yarojek.
Moi, ce que je pense aussi, c'est qu'il n'y a pas de bonne gestion de crise, il n'y a pas de bonne communication face à une telle affaire, face à une telle catastrophe.
Si, et qu'effectivement,
on a le sentiment qu'en tout cas, ils ne réagissent qu'après coup. À chaque nouvelle révélation, à chaque nouvelle inquiétude de la population, le gouvernement réagit. Ça a effectivement très mal commencé avec Agnès Buzyn, la première ministre, qui était sur place le jour même, dans les heures qui ont suivi l'incendie.
Qui a dit que Rouen était pollué.
Oui, mais qui a dit grossièrement. Alors, on a eu le mot de grossièrement, voilà. Alors. Et ça rejoint aussi ce que tout à l'heure Édouard Philippe à la tribune de l'Assemblée nationale s'est exprimé et a dit les mots du Premier ministre, nous ne savons pas tout à l'heure actuelle. D'entendre un Premier ministre dire ça, nous ne savons pas tout, ça c'est terrible. Donc je pense qu'il y a des inquiétudes, pour terminer, qui sont légitimes. Il y a 1800 agriculteurs qui sont concernés, voilà. Donc tout ça c'est légitime. Maintenant, je trouve qu'il ne faut absolument pas verser dans le complotisme.
Absolument.
D'accord.
Voilà. Non, mais bien
alors,
sûr. C'est juste...
De quoi est-ce qu'on parle? Il y a eu cette conférence de presse hein, du préfet qui était, on va dire, aux côtés également de Patrick Berg. Il est le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Normandie, qui lui a évoqué, vous savez, les fibres d'amiante dans l'air. Écoutez ce qu'a dit ce spécialiste Patrick Berg.
Ces résultats sont tous négatifs, c'est-à-dire que tout ce qui est prélèvement sur des surfaces. Le rapport qui sera mis en ligne tout à l'heure indique qu'on ne détecte aucune fibre d'amiante sur les surfaces. Et en ce qui concerne les prélèvements dans l'air, on est sur, j'ai envie de dire, le bruit de fond des fibres d'amiante dans l'air, c'est-à-dire des niveaux extrêmement faibles. Ce risque n'est pas avéré. On attend la deuxième série de relevés et on sera en mesure donc de confirmer si cette deuxième série de relevés confirme ce que les premiers relevés indiquent.
Yasmina Jaffar, Patrick Berg, donc, qui est directeur régional, qui est un homme documenté, qui est un homme de raison et qui s'exprime plutôt bien et clairement. Apparemment, ce qu'il dit n'a aucun impact sur l'opinion.
Parce qu'en effet, c'est trop tard et qu'il y a dans les esprits Tchernobyl, la série Tchernobyl aussi, qui a beaucoup de succès.
Et d'actualité.
Qui est complètement d'actualité, AZF, etc. Donc on a une population extrêmement renseignée. En effet, on est sous le règne des réseaux sociaux, du complotisme.
Plus ou moins renseignée, j'allais dire.
En fait, c'est mal renseigné.
Oui, en effet, mais en tout cas, voilà. Qui sait aller chercher l'information et qui n'a pas envie, qui a envie qu'on lui parle autrement. Et il y a aussi cette année qu'on a passée, qui est une année assez violente, où les gens, quand ils veulent quelque chose, vont le réclamer de force. Donc il y a aussi cette volonté de faire des manifestations pour demander une vérité, mais en allant taper aux portes maintenant. On n'est plus simplement à dire, dites-nous simplement ce qui se passe. Ils y vont physiquement. Donc on est dans une toute autre matrice.
Mayada Boulos, hier soir, c'est Patrick Poivre d'Arvor qui était sur ce plateau, qui racontait que du temps de Tchernobyl, eh bien, il avait dû annoncer que le nuage était arrêté à la frontière. C'est dans le souvenir collectif. Hein.
Complètement. Néanmoins, il faut faire attention parce qu'il y a quand même aujourd'hui les gens qui vont sur les réseaux sociaux, etc. C'est quand même une population jeune qui n'a pas du tout connu Tchernobyl et qui n'a pas forcément, alors peut-être la série, effectivement,
la série
qui est d'actualité,
beaucoup.
Qui n'a pas forcément cette historique en mémoire. En revanche, vous disiez tout à l'heure une population informée. Moi, je pense que le problème, c'est qu'elle est désinformée, précisément à cause des réseaux sociaux. On a quand même une prolifération des fake news et on n'y répond pas. Et alors, quand on y répond à la raison. Et on ne répond pas à l'émotion qui est quand même un élément fondamental dans cette affaire et dans toute crise sanitaire, justement.
On est à cheval entre, finalement, à mi-chemin entre émotion et raison. Allez, 20h40 sur France Info. Nous marquons une pause avec vous pour le rappel de l'info, Jules de Kiss.
Plus de 5000 tonnes de produits ont été détruits dans cet incendie de l'usine Lubrizol à Rouen jeudi dernier. C'est ce qu'annonce la préfecture ce soir. Elle vient de publier la liste de toutes les matières parties en fumée et les dangers provoqués en cas de combustion. Ce sont en majorité des additifs pour les hydrocarbures. 5000 personnes se sont réunies tout à l'heure devant le palais de justice de la ville pour réclamer toute la vérité des autorités sur les conséquences de ce sinistre. C'est encore trop tôt pour juger de l'efficacité de la suppression de l'impôt sur la fortune. D'après le tout premier rapport sur le sujet, il montre que dans l'immédiat, son remplacement par l'impôt sur la fortune immobilière, il y a deux ans, n'a pas permis d'augmenter les investissements dans l'économie ou de réduire l'exil fiscal. Nissan pourrait finalement ne pas assembler son SUV, le Qashqai, dans l'usine de Sunderland en Angleterre en cas d'un Brexit sans accord. Le constructeur automobile japonais envisage même de fermer le site à terme dans cette hypothèse. Une sortie de l'Union européenne sans accord le 31 octobre, cela reste l'hypothèse la plus plausible, rappelle encore aujourd'hui le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. des manifestations violemment réprimées en Irak. Aujourd'hui, deux hommes sont morts, tués par des tirs des forces de l'ordre. Plusieurs milliers de personnes manifestent dans le pays pour demander davantage d'emplois et de services publics. Et puis dans 20 minutes maintenant, le Paris Saint-Germain affronte Galatasaray en Turquie pour son deuxième match de poule de Ligue des Champions de football. Dans cette poule, le Real Madrid est en grande difficulté. Après une première défaite au Parc des Princes il y a deux semaines, les Espagnols sont menés 2-1 par Bruges à quelques minutes de la fin du match.
France Info, et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Alors je ne sais pas si tout est plus clair, c'est la question qui est posée ce soir. Le préfet Pierre-Henri Durand, donc en conférence de presse, a annoncé la mise en ligne de la liste des produits qui ont brûlé. Édouard Philippe s'y était engagé à l'Assemblée nationale.
Depuis fin 2017, pour des raisons de sécurité que chacun peut comprendre, la liste complète des substances présentes sur les sites Céveso n'est plus rendue publique. Elle est connue, elle n'est plus rendue publique. Par exception, cet après-midi, le préfet rendra public les produits stockés dans les bâtiments qui ont brûlé et les quantités de ces produits qui ont brûlé. L'engagement est ferme à cette tribune. Et il sera tenu.
Alors, parole tenue de la part du Premier ministre. Et j'en veux pour preuve ce qui m'a été amené par Walid Dachraoui dans ce studio. C'est-à-dire une copie de ces produits qui ont brûlé à l'usine en question. Eh bien, je peux vous dire que, pour ceux qui nous regardent et ceux qui nous écoutent, c'est absolument incompréhensible. Il y a d'abord des listes de produits, mais après tout, pourquoi pas, c'est la transparence pendant des pages et des pages. Et puis, vous avez des tableaux avec des mentions de dangers relatifs aux dangers physiques. Je vous lis une ligne par hasard. H252, matière auto-échauffante en grande quantité peut s'enflammer. Et sur la deuxième colonne, substance et mélange auto-échauffant catégorie 2. Il en va ainsi pendant des pages et des pages. Je me tourne vers vous, Mayada Boulos. C'est un peu facile de ma part de railler finalement ce stock de feuillets. Après tout, il y a quand même un effort de transparence qui est fait, mais il faut pouvoir le traduire.
Complètement. Je pense qu'il faut qu'on soit conséquent et cohérent. On a demandé de la transparence, on a eu de la transparence. Là, le problème est un problème de timing. On aurait eu en fait tous ces éléments sans avoir à les demander, sans que la population fasse des pétitions, des articles de presse dans tous les sens pour avoir ces éléments, ça n'aurait pas posé problème.
Oui. Sur ça, Rojek, ça vous a fait sourire de voir ce stock de feuillets?
Oui, parce qu'on tombe presque dans l'ultra-transparence. En fait, le problème...
Mais c'est trop de transparence.
Je pense que le problème dans cette affaire, c'est le décalage. Il y a un décalage entre un discours officiel qui, bien sûr, se veut et qui doit être rassurant, et une réalité, la réalité des faits, la réalité des inquiétudes d'une population qui sont légitimement inquiets. Maintenant, et je pense que c'est aussi important de le rappeler, le gouvernement, les politiques, les personnes en charge aujourd'hui, les pouvoirs publics, n'ont aucun intérêt à mentir.
Aucun.
Je pense
aucun.
Tout simplement, ils font au mieux. Et je pense que c'est important de
le
rappeler.
Encore
une fois, ne pas verser dans le complice.
Aucun intérêt à mentir.
Non, mais ils n'ont aucun intérêt à mentir et ils font au mieux. Ils
Mais c'est là où je peux me permettre de rebondir sur ce que vous dites, Savaya. C'est-à-dire qu'ils font au mieux, mais ils font mal et c'est bien là le problème. C'est-à-dire qu'ils font mal.
Il n'y a pas de bonne gestion de crise.
Non, il n'y a pas de bonne gestion de crise, mais il y aurait pu sans doute y avoir de meilleures gestions de crise. Et notamment, moi, je vois, j'ai des amis qui sont enseignants là-bas, qui étaient confinés cet après-midi. Des familles, on peut comprendre l'inquiétude des personnes âgées, des agriculteurs, etc. Il y a eu une absence de réponse à l'émotion. Mais je crois que globalement, si on peut prendre un peu de recul par rapport à ce dossier-là, sans rester collé à cet accident et en pensant à ce qui pourrait se passer, parce que cette vallée de la Seine, il y a X sites Céveso, c'est quand même le berceau de la chimie en France. Et qu'est-ce qu'on réalise ce soir, après 6 jours? C'est que l'État n'est pas préparé à faire face à des catastrophes de ce type-là. Et que l'État n'est pas préparé, terroriste
ou pas.
On
parle quand même d'une affaire où il n'y a pas de victimes, attention.
Oui, mais bien entendu, à ce stade aujourd'hui, on ne sait pas exactement encore si...
Les conséquences.
Voilà, alors,
les conséquences.
Question Yasmina Jaffar, qu'est-ce que serait donc, pour reprendre Sophie de Ravinel, une bonne gestion de crise dans cette affaire-là?
Alors là, c'est compliqué parce que, en effet, il y a le calendrier autour du décès de l'ancien président qui a un petit peu rebattu les cartes et l'action n'a pas été là.
Et ils ont le discours
complètement,
public.
Complètement. Ça a ému absolument tout le monde et on s'y attendait, mais ça a saisi tout de même. Donc, il fallait réagir et le fait de ne pas agir et d'être simplement dans la réaction en envoyant 5 ministres en l'espace de 48 heures, ça n'a aucun sens. Et Monsieur Castaner qui dit tout et son contraire dans la même phrase. Et il n'y a eu qu'aujourd'hui qu'Édouard Philippe a été le plus plus clair possible. Mais en effet, c'est trop tard et les dégâts sont faits. Voilà, et les dégâts sont faits. Il y a eu une explosion il y a quelques temps en Russie. Bon, on sait que ça existe, mais on n'est pas préparé du tout à ça. De la même manière, sur l'urbanisation, on n'est pas du tout préparé quand les villes grossissent et grandissent et s'approchent de ces sites-là. On n'est pas préparé à ce que ça peut créer sur les habitations.
Ce que je peux me permettre, un tout petit point, c'est sur un sujet qui est levé et peut-être auquel il faudra apporter des réponses, qui est sur les vérifications qui sont faites dans ces sites-là et l'État qui, petit à petit, délègue aux entreprises privées le soin de vérifier, le soin de gérer leurs stocks, etc. Là, on a vu que sur Lubrizol, effectivement, il y avait eu un nombre incalculable de tonnes de produits qui avaient été autorisés sans forcément les autorisations nécessaires ou par le biais d'une évolution de la législation. Et là, je pense qu'il y a pas mal de choses aussi à revoir sur ce point-là.
Alors, il y a la situation des 1800 agriculteurs touchés qui ne peuvent pas plus vendre leur production et durablement. Les premières indemnisations interviendront sous 10 jours selon le ministère de l'Agriculture. L'usine doit-elle payer ? Question posée ce matin à Isabelle Striga, la directrice générale de Lubrizol France.
Je suis absolument désolée que nos agriculteurs ne puissent pas mettre sur leur marché leurs produits ces jours-ci. Pour autant, le temps de l'enquête va devoir se dérouler. Les enquêteurs sont à pied d'œuvre et les résultats nous permettront d'avancer sur la question que vous avez posée.
Mais il n'y aura pas de geste de votre entreprise, pour être très clair, devançant les décisions de justice.
Nous allons suivre les décisions de justice.
Maria Daboulos, on sent la gêne de cette dirigeante d'entreprise sous l'insistance de Marc Fauvel ce matin sur France Info.
On sent sa gêne et je trouve pour ma part que les mots sont un peu faibles. Je suis désolée, les mots sont quand même c'est un court. Peu faibles. C'est un peu faible et là encore, on n'est pas assez dans l'empathie.
C'est ce que vous disiez tout à l'heure.
Des règles de base dans ce type de situation, c'est empathie, transparence, action.
Mais peut-on feindre l'empathie dans ce type de situation ? C'est pas très compliqué quand on voit l'état des populations et des agriculteurs.
Enfin, c'est quand même triste d'en arriver à un stade où il faut feindre l'émotion. Mais donc, il faut effectivement montrer de l'empathie, montrer de la transparence très vite. Et là encore, comme vous le disiez, Sophie, tout à l'heure, maîtriser le calendrier pour être à l'initiative. Et enfin, action. Quand je dis action, c'est-à-dire concrètement, montrer quelles sont les mesures prises pour que cela ne se reproduise plus. Puisque c'est ça aussi la question.
Sophie, c'est ça, que Le Figaro va titrer à la une sur Rouen, évidemment.
Demain. Oui, absolument, c'est notre événement demain, avec une série de questions qui sont posées, parce qu'effectivement, pour l'instant, il n'y a pas de victimes. Disons que les dommages, pour le moment, sont plus ou moins maîtrisés. Enfin, on ne sait pas grand-chose, en fait. Mais il est vrai que ça peut arriver n'importe où. On a vu d'ailleurs qu'il y avait une autre usine, Seveso Borealis, qui a été fermée ce matin. Il y a eu un autre accident au Luxembourg, il y a eu des problèmes à Toulouse. Enfin, je veux dire, ce sont des choses qui peuvent arriver de façon... Et si cet accident-là peut permettre une prise de conscience et une évolution, en particulier dans le corps préfectoral, sur la façon de gérer la crise et éventuellement de ne pas avoir peur à mettre des sirènes la nuit, même si ça risque d'affoler les populations.
Allez, nous en restons là ce soir sur l'affaire de Rouen. Évidemment, une situation que nous allons suivre pas à pas sur France Info. Il est 20h50. Le rappel de l'info avec vous, Jules Dequisse.
La préfecture de Seine-Maritime vient de mettre en ligne sur son site internet la liste des produits qui ont brûlé dans l'incendie de l'usine Lubrizol jeudi dernier. Plus de 5000 tonnes de matière sont parties en fumée, essentiellement des additifs pour hydrocarbures. Tous les produits ne sont pas dangereux, la dangerosité dépend de la quantité présente et de la manière dont on est exposé, précisent ces documents. Nicolas Sarkozy devant Mario Maréchal et Marine Le Pen. C'est le trio de personnalités préférées par les sympathisants de droite pour mener une éventuelle alliance de la droite. C'est ce qui ressort de notre sondage Odoxa Dentsu Consulting pour France Info et Le Figaro. Une rupture des digues souhaitée par 2/3 des militants RN, plus de la moitié chez les Républicains, alors qu'une majorité de Français, tout camp confondu, la verrait d'un mauvais œil. Nicolas Sarkozy sera bien jugé en correctionnel dans l'affaire Big Malion. La Cour de cassation rejette son dernier recours. Il comparaîtra donc pour financement illégal de campagne. D'après les enquêteurs, il a dépassé le plafond des dépenses autorisé en 2012 grâce à un système de fausses factures. Il risque une peine d'1 an de prison de 3 750 € d'amende. Un candidat en prison à 2 semaines de l'élection présidentielle du second tour. C'est ce qui se passe en ce moment en Tunisie. Nabil Karoui, patron de presse, soupçonné de fraude fiscale, est maintenu en détention. Sa demande de libération est rejetée alors qu'il est arrivé juste derrière le juriste Kaïs Saïd lors du premier tour le 15 septembre dernier. Et puis ça vient à l'instant de se terminer entre le Real Madrid et Bruges. Les Espagnols obtiennent finalement le match nul de partout contre les Belges dans ce match de la phase de poule de Ligue des Champions de football. Les hommes de Zidane ont égalisé en toute fin rencontre. Dans 10 minutes, place au Paris Saint-Germain qui joue en Turquie contre Galatasaray.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Je voudrais que nous refermions ces informés en marge de l'enquête que rappelait à l'instant Jules De Kies sur les droites en France, sur cette controverse qui a démarré samedi lors de la convention des droites organisée par Marion Maréchal et éminemment les déclarations du journaliste et polémiste Éric Zemmour. Pour poser le débat, je voudrais d'abord vous faire entendre un extrait, non pas d'Éric Zemmour, mais de ce qu'a déclaré Marion Maréchal et ce qui était l'objet, au fond, de cette convention dite des droites.
J'entends les impatiences et les frustrations. J'entends ceux qui veulent agir à tout prix, tout de suite, pressés par le temps, angoissés par les mots qui nous frappent et qui, c'est vrai, s'accélèrent. Mais qui peut sincèrement imaginer que nos idées arriveront au pouvoir sans avoir préalablement brisé les barrières partisanes d'hier. Ce que nous commençons aujourd'hui à faire avec la présence, disons-le, assez inédite, dans un même événement public, à la fois, et je le remercie, d'élus venant des Républicains et d'élus venant du Rassemblement National, entre autres choses.
Et parmi les idées évoquées à l'instant par Marion Maréchal, est bien celle d'Éric Zemmour, qui, vous le savez, s'en est pris, entre autres, je le cite, aux immigrés colonisateurs, Saverio Rojek, et à l'islamisation de la rue. On comprend l'émotion suscitée par ces propos.
Absolument. Ce qui est effarant dans cette affaire, on l'a dit, ce qui est effarant, c'est la tribune, la couverture médiatique qui a été offerte et donnée par certains médias à cette convention de la droite et donc à ce discours d'Éric Zemmour. Éric Zemmour, il faut le rappeler, c'est pas un élu, c'est pas un historien, c'est pas un expert, c'est même pas un journaliste, c'est un polémiste. C'est un polémiste qui a été condamné pour incitation à la haine raciale. Ce n'est pas rien en France d'être condamné pour incitation à la haine raciale. Et c'est quelqu'un qui déforme la réalité pour nourrir des propos haineux. Je voudrais juste rappeler ce qu'a dit François Hollande il y a quelques jours à propos de cette affaire. C'était assez intéressant. Il dénonçait l'outrance qui s'est introduite dans le système médiatique. La porosité qu'il y a aujourd'hui dans le système avec de tels propos. Il pointait la responsabilité des médias. Et je suis profondément d'accord avec ça. Moi, je pense que collectivement, nous médias, nous journalistes, on a une responsabilité là-dedans. À faire en sorte qu'il n'y ait aucune porosité justement dans ce type de propos. Le danger, ce n'est pas Éric Zemmour.
Il s'en sert.
Le danger, c'est la tribune qu'on lui offre.
Alors justement, Sophie Dravinel, vous êtes grand reporter au Figaro, j'imagine, puisque Éric Zemmour écrit dans vos colonnes, enfin les colonnes du journal, du moins du magazine également, que la question se pose du maintien de sa présence.
Oui, là, disons que le débat est assez nourri au sein de la Société des journalistes du Figaro. Il y a eu un communiqué demandant qui dénonçait justement ce rôle de rentier de la polémique et demandant à la direction de tirer les conclusions de cette situation. Et Alexis Brézet a répondu par un communiqué
qui est le responsable,
directeur de la rédaction et qui a répondu aujourd'hui. Il n'a pas répondu hier parce qu'il y avait l'enterrement de Jacques Chirac. Il a répondu aujourd'hui en disant que la place d'un journaliste n'était pas à une tribune politique. C'était des mots assez clairs. Ça n'est pas non plus... il n'a pas tenu des propos définitifs sur Éric Zemmour. Mais c'est vrai que le débat est nourri au sein de la rédaction et moi, à titre personnel, d'ailleurs, même titre que Bernard Guetta qui se présente député européen et journaliste, pour moi, Éric Zemmour, outre le fond de son discours, a quitté nos rangs de la confrérie.
Pour vous, il y a une confusion des genres?
Oui, il y a une confusion des genres qui est très dommageable, même si cette porosité est toujours plus ou moins existé, mais je la distinguerais de celle des éditorialistes, de l'exercice d'éditorialiste qui est assez classique. Et au Figaro, nous avons une succession de plumes dans l'histoire, mais qui ont été des plumes extrêmement brillantes. Et là, aujourd'hui, j'avoue que nous sommes à un autre niveau.
Yasmina Jaffa. Durant une demi-heure, justement, je pense qu'il a cru rendre un éditorial. C'était ses obsessions pendant une demi-heure qui tournaient en rond. Je crois qu'il sait ce qu'il fait, ses amalgames, ses erreurs et ses faussetés historiques. Ça nourrit, parce qu'il a attaqué aussi les communautaires, ça nourrit en fait d'avoir deux extrêmes pour pouvoir exister. Ce qu'il veut, c'est vendre ses livres, ce qu'il veut, c'est exister. C'est un polémiste, ce n'est rien d'autre que ça. Et il faut le remettre à sa place. Et en effet, la tribune des médias ne doit pas lui être à ce point accordée, parce qu'il sait ce qu'il fait.
Maïa Daboulos, est-ce que l'on peut tout dire ?
à 100% d'accord avec ce qui vient d'être dit.
Est-ce que l'on peut
non,
tout dire ?
Il a été condamné par la justice. C'est aussi une décision de justice. Je crois que la rhétorique de l'inversion des rapports de force, c'est pas quelque chose de nouveau dans l'histoire. Hier, c'était les antisémites, hein, comme le dit par exemple Noiriel, les antisémites d'hier sont les islamophobes d'aujourd'hui. Et donc, il est temps d'en tirer les conséquences. Les mots ont un sens. Il y a le poids du symbole et il faut en tirer les conséquences et on sait ce que ça a donné dans l'histoire.
Vous posez la question de savoir si on peut tout dire. Moi, je dirais que la justice pose des limites à l'expression.
Absolument.
Et que la justice a parlé dans le cas d'Éric Zemmour.
Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir de cette controverse hein, qui agite évidemment notre profession depuis ce discours samedi à la Convention des droites. Je reste avec vous, Sophie Dravinel. Quelle est la une du Figaro demain ? Vous évoquiez Rouen, mais pas seulement. Hein.
Oui, nous avons aussi une une sur la Chine, mais nous sommes évidemment en événement principalement sur Rouen.
Sur Rouen, avec, j'imagine, pas mal de rubriques à l'intérieur.
Absolument, la science, la société, la politique, tout le monde s'est mis là pour essayer de comprendre ce qui se passe et apporter des informations aux Français.
Yasmina Jaffar, la ruchemedia.com.
Retour sur les 5 jours de deuil, d'hommage que nous venons de passer.
Avec hommage au président
de la République.
Jacques Chirac. Merci Sophie Dravinel, merci Yasmina Jaffar, merci Savaria Rojek et Maya Daboulos d'avoir participé à ces informés de France Info. Pour ma part, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain sur France Info.